Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Je suis dans une filiation et il y a eu beaucoup de dessinateurs qui ont croqué le jazz, vous savez. Il y a eu des pochettes célèbres de Stone Martin, David Stone Martin, ou bien Heisfeld, un caricaturiste américain. Ils ont tous fait des dessins comme ça et je connais beaucoup de dessinateurs qui aiment le jazz. C'est une corporation qui aime beaucoup le jazz. Je sais pas pourquoi ça va ensemble, mais je peux dire que le dessin et le jazz vont très bien ensemble. Et quand moi je dessine, quand j'ai trouvé l'idée, je mets un disque de jazz pour avoir un dessin plus nerveux. Alors c'est pour ça que je mets beaucoup de grands orchestres qui swingent.
La voix que vous venez d'entendre est celle d'un homme libre, dessinateur de grand talent et fervent amateur de jazz, qui nous a quitté le 7 janvier 2015 à l'âge de 76 ans lors du terrible attentat contre le journal Charlie Hebdo. Nous n'allons pas revenir dans cette émission sur ce drame effroyable, mais plutôt célébrer la liberté de penser de Jean Cabu, dit Cabu, qui avait trouvé dans le jazz une forme d'expression dont il savait reproduire l'esprit frondeur dans ses croquis. Pour cela, nous avons fait appel à deux de ses bons amis, également attachés à la force vive du swing, Claude Carrière et Christian Bonnet. Soyez les bienvenus.
Merci.
Merci.
Vous avez tous deux côtoyé, sympathisé, collaboré avec Cabu sur des collections de disques intitulées Cabu Jazz Masters ou BD Jazz, illustrées par de nombreux dessinateurs dont Cabu. Et en guise d'hommage, nous allons écouter dans cette épopée des extraits de plusieurs livres disques concoctés par vos soins et par Cabu. Je pense à l'ouvrage consacré à Cab Calloway ou encore Le Jazz de Cabu paru en 2015. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir comment vous avez rencontré Cabu et quels souvenirs vous garderez de lui. Christian Bonnet.
On a rencontré Cabu dans au tout début des années 90, lorsqu'effectivement, à l'époque, nous avions lancé avec Claude la collection Masters of Jazz, et nous tâchions de trouver une collection qui soit un petit peu plus populaire, qui soit partagée par le plus grand nombre, et le nom de Cabu est venu tout de suite à notre esprit. On savait qu'il était amateur de jazz, par l'intermédiaire d'un de nos amis communs, Alain Tercinet. Nous avons fait connaissance, et il a tout de suite accepté de jouer le jeu avec la générosité qu'on lui connaissait. Le jeu consistait pour lui, en fait, à dessiner, à croquer les musiciens dont nous allions retracer la carrière sous forme de double CD dans cette collection qui s'appelait Masters of Jazz Cabu.
Est-ce que son goût pour le jazz traduisait sa personnalité? Était-il un improvisateur, un artiste libre et indépendant comme le jazz, Claude Carrière?
Oh ben, libre, oui. Très indépendant, oui, à tous les points de vue. Et puis il swingait quand il écrivait, il swingait quand il parlait. Il aimait d'ailleurs la musique qui swing, comme ce qu'on a entendu tout à l'heure, Jimmy Lunsford. Et il était fou d'abord et en premier lieu de Cab Calloway. Et notre fou chantant à nous, français, Charles Trenet. Il connaissait Charles Trenet par cœur. Il chantait Charles Trenet. Il était drôle à mourir parce que c'était toujours assez approximatif, ses mises en place et tout. Mais il y avait un enthousiasme qui emportait tout.
Diriez-vous que ses dessins étaient des caricatures? Moi, j'y vois de l'affection pour ceux qu'il croquait, pas vraiment des caricatures.
Il y a de l'affection et puis quelquefois il est carrément méchant, même avec quelques-uns de nos artistes préférés. Je veux dire, il a pas tellement gâté Ellington, Duke Ellington au point de vue du dessin. Ses chanteuses, par exemple, sont effroyables, les singing ladies.
C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, on peut dire quand même qu'il y avait une grande complicité, même au travers de le caractère aigu du trait, il y avait en sous-jacent toujours une grande tendresse et un grand amour de cette musique. C'était un grand fanatique. Comme le disait Claude, il a tout de suite adoré le jazz dès qu'il a découvert cette musique au milieu des années 50 pour ses qualités, ses vertus rythmiques, ses vertus roboratives. Alors évidemment, ses préférences Alep, ce jazz qui swing, ce jazz qui est fortement rythmé, le jazz qui fait danser, le jazz spectaculaire, les big bands, évidemment. Et puis, évidemment, on peut penser que pour un dessinateur, le big band, avec ses trois rangées, ses quatre sections, sa section de trompette, ses cuivres qui remuent, qui bougent, qui brillent, ça parle beaucoup. Et il avait un faible particulier pour ce genre de formation. Et les chanteurs et chanteuses qui scattent, comme Ella Fitzgerald, comme Cab Calloway, et toute cette famille de chanteurs qui faisait bouger, qui faisait claquer des mains, qui faisait taper des pieds, qui faisait danser, et qui avait sa préférence. Il aimait ce jazz-là.
Est-ce qu'il avait une vraie connaissance du jazz, de son histoire, de son répertoire, comme vous pouvez l'avoir, vous, par exemple, Claude Carrière?
Il avait surtout une vraie connaissance de ce qu'il aimait, lui. Mais non, il n'était pas un encyclopédiste. Il se moquait assez de nous et il nous écoutait. Ça, c'était sympa.
Oui, je crois qu'on peut dire, pour résumer, que c'était un amateur enthousiaste.
Un très
grand connaisseur.
Il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'aimait pas coloriser ses dessins. Il n'existe pas de dessin de Cabu colorisé, à part cette collection qui est coloré par Wozniak.
Il manquait de confiance en ce qui concerne la couleur. Je crois que c'était un homme de trait, entre guillemets.
Mais il aimait le jazz en couleur. Il était en tout cas incollable sur Cab Calloway, dont était un fan invétéré, et qu'il avait vu sur scène dès les années 50, vous le disiez, comme il le précisait sur les ondes de nos confrères de France Inter en 2009.
Vous savez où c'était? C'était au Veldiv, qui était encore debout. Il a été démoli seulement en 70. Moi, à l'époque, je savais pas ce qui s'était passé comme horreur. C'était la rafle du Veldiv. Et quand je suis arrivé à Paris en 56, j'ai voulu aller voir les Harlem Globetrotters et je ne savais même pas qu'il y avait, à l'entracte, il y avait deux entractes, il y avait un chanteur extraordinaire, c'était Cab Calloway, avec un grand orchestre qui n'était plus le sien puisqu'il l'a dissous en 48-50. Mais j'ai vu ce fou chantant extraordinaire, c'est lui qui m'a donné envie d'aller au concert de jazz après. Et j'ai vu cette année-là Lionel Hampton, Duke Ellington, Alan Ambra, vous vous rendez compte, vous n'avez pas connu ça. Cab Calloway était capable de chanter en dansant, c'est ça, c'est très rare. Hein. C'est un sportif d'ailleurs, lui-même faisait du basket, c'est pourquoi je crois qu'il accompagnait les Harlem Globetrotters. Il intervenait deux fois 20 minutes. Après, ça m'a amené à Charles Trenet, parce que c'est la même famille de fous chantants. Cab Calloway plus délirant, mais un jazzman qui a choisi dans son orchestre des gens comme Dizzy Gillespie, Cozy Cole, Ben Webster. C'est ça qu'on oublie. Et quand vous écoutez son orchestre, c'est vraiment le swing à l'état pur pour moi.
Satchmop, I'm getting ready to go right on to town with this scat song. When your sweetie tells you everything will be okay, I'll just keep. If you feel like shouting, go on, advertise it just this way and Now wait a minute, don't you give a hang of what words you use at any time. Sing this silly language without any reason or rhyme. When you face the preacher, there's only one thing to say, just a. Git 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 it in bot 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 it is good foot do it in fat dome. Get it to give me the bop bop it is good it in the bop bop it is bot bot it is.
The Scat Song, Cab Calloway en 1933, extrait de la collection BD Jazz paru en 2010 et illustré par Cabu. Claude Carrière, Christian Bonnet, dans cet ouvrage, parce qu'on peut parler d'ouvrage, Cabu n'hésite pas à égratigner l'Amérique raciste des années 30 et 40. Il y a beaucoup d'allusions à la ségrégation raciale. Dans un dessin, il fait dire à Cab Calloway, la vie d'artiste noir, ce n'est pas évident tous les jours, surtout le soir. Et à côté, on voit un hôtel, la pancarte d'un hôtel avec marqué No Dogs, No Negroes. La page d'après, il dit, Au Cotton Club, les Noirs sont sur la scène, pas dans la salle, sauf pour servir. Et il rajoute sur la page suivante, « On voyageait en train ou en bus privé, c'est plus confortable, ça permet surtout de pouvoir se tirer en cas de problème après un concert. » Et on voit des militants du Ku Klux Klan qui courent après le bus. Et lors du voyage en Europe de Cab Calloway, il dit « En Europe, ils ne nous voyaient pas comme des Noirs, mais comme des musiciens de jazz. » Est-ce que Cabu était un militant? Exprimait-il ses convictions propres dans ses dessins de jazz, Christian Bonnet?
Cabu tenait absolument à ce qu'on sache qu'il était un militant. D'un certain nombre de causes, d'ailleurs. Et ça, c'était effectivement le racisme. C'était une des grandes causes qu'il défendait. Ça revenait régulièrement sur le tapis avec lui. C'est quelque chose qu'il avait extrêmement présent à l'esprit. Et c'est vrai que quand on parle de l'Amérique des années 30, 40, 50, même encore celle d'aujourd'hui, mais enfin spécialement à cette époque-là, il y avait évidemment énormément de choses à dire. Et Cabu ne s'en est pas privé. Vous savez, sa réflexion est celle que vous venez de lire dans le livre, là, concernant les musiciens et la façon dont ils étaient considérés en Europe. C'est criant de vérité. Et comment expliquer que des musiciens comme Sidney Bechet, comme Kenny Clarke, à la fin des années 40, comme Don Byas, ont trouvé en Europe un havre absolument extraordinaire, parce qu'effectivement, en Europe, ils étaient reconnus comme des artistes, alors que, évidemment, aux États-Unis, la ségrégation régnait, et même aux États-Unis, les orchestres les plus connus de l'époque, on parlait de Cab Calloway, qu'on vient d'entendre, qui était un orchestre qui tenait le haut du pavé, n'avaient pas accès aux grandes salles, comme les orchestres blancs, de Benny Goodman, de Jimmy Dorsey,
etc. Et aux grands hôtels non plus.
Ni aux grands hôtels, ni aux grandes salles.
Dans le Sud, on allait dormir chez l'habitant.
Malgré, effectivement, les avancées que certains musiciens blancs eux-mêmes, de type Benny Goodman, faisaient en essayant d'intégrer dans leurs orchestres des musiciens de couleur, mais c'était l'enfer pour eux, c'était vraiment l'enfer.
Est-ce que Cabu grossissait le trait dans ses dessins? La condition des Noirs était-elle aussi douloureuse qu'il le présentait dans ses croquis, Claude Carrière?
Tout ce que vous avez lu tout à l'heure est l'absolue vérité d'après ce qu'on sait. Moi, j'ai des témoignages de musiciens qui ont eu 90 ans l'an dernier, ou de gens comme Clark Terry qui m'ont raconté des choses que j'ai pas envie de raconter.
Ou John Hendricks.
Aujourd'hui aussi, ou John Hendricks, il est toujours vivant. Mm. Et qui en a vu des vertes et des pas très mûres.
À propos de pas mûres, justement, ça fait penser à cette chanson que chantait Billy Holiday, qui s'intitule Strange Fruit, qui fait allusion, évidemment, aux fruits qui pendent aux arbres du Sud, et allusion, bah, c'est une métaphore épouvantable du lynchage et des horreurs du Ku Klux Klan.
Est-ce qu'on peut dire que la force expressive du jazz provient de la violence sociale qu'a dû endurer la communauté noire au fil des siècles?
Non, cette force, elle vient de l'oppression, c'est la musique d'un peuple opprimé, mais tous les peuples, un jour ou l'autre, ont été opprimés et ont sorti de leur tripe des façons de s'exprimer dans tous les domaines.
Il faut dire aussi que le jazz était une musique de minorité. Alors effectivement, il y a la minorité noire y a joué un rôle prépondérant, évidemment. Mais c'était une musique qui était jouée aussi par les juifs, bien sûr, les juifs new-yorkais, qui ont apporté une part considérable, évidemment, à l'évolution de cette musique. Et une minorité aussi comme les italo-américains, dont le jazz, les orchestres de jazz de l'époque, et encore maintenant, pullulent de musiciens aux non-consonances italiennes ou juives, qu'ils ont d'ailleurs quelquefois adaptés, comme Louis Belson, Luigi Balassoni, qui est devenu Louis Belson, et tant d'autres. C'est une musique de minorité. Évidemment, la colonne vertébrale, c'est le rythme africain, en quelque sorte, importé d'Afrique, via les Antilles, tout ça est dépeint des centaines de fois, et je pense que le fait d'appartenir à une certaine minorité a donné une force incontestable à ces gens qui voulaient réussir à tout prix.
Diriez-vous que les jazzmen étaient à l'époque, vu les circonstances, des artistes exceptionnels?
Non, c'est très étrange, avec le recul, qu'une minorité, au fond, une communauté d'une quinzaine de millions d'individus ait influencé la musique populaire du monde entier.
J'utilise le mot exceptionnel car ce terme était utilisé par Cabu pour exprimer son admiration pour ces musiciens valeureux.
Ce sont des gens exceptionnels, ces musiciens de jazz, donc on essaye simplement de les mettre en valeur. Moi, j'essaye de les mettre en valeur en dessin, parce que ce sont des gens exceptionnels. Il y a eu une époque où les Black Panthers avaient des représentants comme Mingus ou bien des musiciens comme ça, mais ce temps est dépassé, et heureusement, on n'en est plus là. Et à l'origine, le jazz était, c'est vrai, une musique de combat pour l'intégration. Peut-être, regardez, si je fais un dessin de Bessie Smith, je suis obligé d'intégrer tout ce qu'ils ont vécu à cette époque-là, et c'était dur pour eux, évidemment. Mais si je fais un dessin sur Miles Davis, lui, il était à l'aise. Hein. Moi, je l'ai vu notamment en Hollande, à La Haye, et il se cachait même dans le rideau, je sais pas, il jouait face à ses musiciens, peut-être, c'est ça. Plus il vieillissait, plus il se cachait.
C'était Miles Davis en 1954, extrait de la dernière parution de la collection BD Jazz, le jazz de Cabu en d'autres mots, les artistes ou les œuvres qu'aimait Cabu. C'est ainsi d'ailleurs que vous avez conçu cette anthologie en fonction de ce que furent les goûts de Cabu, Christian Bonnet.
En grande partie, oui, bien sûr, on a tenu compte effectivement de ses penchants pour ce jazz rythmé, coloré, roboratif qu'il aimait particulièrement. Cela dit, il était aussi très éclectique, il savait apprécier à sa juste valeur des gens comme Gil Evans, qui représentaient un monde qu'on aurait pu penser un petit peu étranger à ses goûts. Non, il aimait énormément ça aussi. Mais c'est vrai que ses préférences, comme on l'a déjà dit, allaient plutôt vers ce jazz-là, et dans cette anthologie, prennent place Louis Armstrong, Cab Calloway, Fats Waller...
Woody Herman.
Et Woody Herman, bien entendu, ah là là, oui, qui était très cher.
Duke Ellington, qui l'avait dessiné de visu, puisqu'il l'avait vu souvent. Je me souviens d'avoir vu Cabu dessiner Ellington à Provins en 70.
Est-ce qu'il y a une porte d'entrée pour apprécier le jazz, Claude Carrière ?
Un disque irrésistible d'un très grand musicien et à passer aux enfants des écoles. Mais à quoi ? Un beau disque aussi bien de Miles Davis que de Duke Ellington ou de Louis Armstrong, sans qu'il y ait de barrières, d'époque, puisqu'on peut très bien faire écouter à un enfant de la musique de Vivaldi aussi bien que de la musique de Stravinsky. Il est ouvert à tout, il est vierge.
Vous êtes tous deux de grands connaisseurs, vous êtes membres de l'Académie du Jazz. Claude Carrière, vous avez même été président de l'Académie du Jazz. Vous évoluez dans ce monde depuis des années. Qu'apportait Cabu à l'image du jazz, souvent considéré justement élitiste ou trop complexe ?
Ben, c'était un plus formidable pour nous, parce que il apportait cette légèreté merveilleuse dont quelquefois on avait besoin, parce que on nous a assez reproché d'être terriblement sérieux, d'être sectaire, d'être entre nous, alors que c'est pas vrai, on est des gens tout à fait civilisés.
Peut-être qu'Abu était-il le contrepoids justement à cet excès de sérieux, entre guillemets, cet excès de prise de tête, et il apportait ce caractère léger, ce caractère vivant, ce caractère humoristique, enfin, avec ses talents, ce génie formidable qu'on lui connaissait. Et je pense qu'il a joué certainement à sa façon, généreuse, gentille, mais très efficace. Il a certainement joué ce rôle de contrepoids.
Chez nos confrères de France Inter, il avait dévoilé une partie de son processus créatif et le type de musicien qui l'inspirait.
Chaque fois que je vais à un concert, je prends des notes. Et j'ai fréquenté beaucoup les festivals à Nice, Antibes, Jean-Lépin. Et j'ai vu Elvin Jones un soir d'orage. Et tous les musiciens étaient partis et lui il continuait à jouer de la batterie. Et il y a un éclair, enfin c'est une illusion peut-être, un éclair qui est tombé sur lui. C'était formidable. Et il jouait tout seul sous le déluge. Et c'était un batteur exceptionnel. Et il faut dire qu'un batteur, il n'y a pas photo pour moi entre un batteur de jazz et un batteur de rock. Ça, je le dis chaque fois. Ceux qui veulent appréhender le jazz, il faut qu'ils voient, oui. Il faut voir le jazz en spectacle, comme spectacle. Et si vous voyez un batteur de jazz et un batteur de rock, c'est pas pareil.
Louis Armstrong, extrait du Jazz de Cabu dans la collection BD Jazz 2015 avec la batterie Cozy Call, comme me le précisait Claude Carrière. Peut-on imaginer, messieurs, que vous continuerez à éditer et concevoir des BD Jazz à partir des dessins inédits de Cabu, s'il en existe ?
Des dessins inédits de Cabu, il en existe. Je crois que actuellement il y a quelqu'un, notre ami Jean-François Pittet, qui est chargé de recenser, de numériser tout ça. Ça va prendre un certain temps parce que l'ami Cabu n'était pas quelqu'un de très ordonné, pour employer un understatement. Enfin, en tout cas, il y a un projet qui devrait voir le jour assez vite, puisqu'il a, pour la collection BD Jazz, il a mené à bien une bande dessinée consacrée à Woody Herman, dont on parlait tout à l'heure, justement. Et ça devrait sortir dans le courant de l'année, quand certaines petites choses auront été mises au point, notamment couleur ou pas couleur, etc. Il faut dire que Woody Herman est un personnage particulièrement attachant, parce qu'il a mené ce grand orchestre depuis la fin des années 30 jusqu'à la fin de sa vie. Il a réussi à mener contre vents et marées un grand orchestre, et ça lui a coûté extrêmement cher au sens propre du terme, puisqu'il a dû souvent hypothéquer sa maison personnelle. Il est mort totalement ruiné dans des conditions épouvantables, parce qu'il a été escroqué par son agent à l'époque.
Il a eu des problèmes avec le fisc également.
Il a eu des très gros problèmes.
Un agent qui oubliait de payer ses impôts.
Tout simplement. Mais il n'a jamais cessé de tenter et d'arriver à rebondir et de conserver cette magnifique machine à bonheur qui est un grand orchestre de jazz.
Cabu nous a quittés il y a un an, assassiné pour avoir humblement mais vaillamment défendu à sa manière la liberté d'expression. On pense évidemment à Charb, Honoré, Tignous, Volinsky et tous ceux qui ont péri ce jour-là. Mais j'aimerais vous faire entendre une dernière déclaration de Cabu enregistrée en 2009. Quand il évoquait la différence entre la caricature politique et les dessins de jazz, il y avait toujours cette joyeuse insolence qui pointait, mais finalement inoffensive et généreuse.
Il faut pas y mettre de la méchanceté qu'on peut mettre pour sur quelques personnages politiques qu'on n'aime pas forcément. Non, là c'est... Moi j'ai envie toujours de leur rendre hommage à ces gens qui, vous savez, ils ont mené une vie souvent assez dure, de tourner comme ça, ils sont épuisés. Je pense à Duke Ellington, et un jour je l'ai vu, c'était au festival de Provins dans les années 70, et il montait dans son autobus et ils allaient jouer le lendemain en Suisse, vous vous rendez compte. Donc après le concert, ils allaient rouler toute la nuit et ils jouaient le lendemain soir. Ils ont passé leur vie à faire ça, hein.
C'est sur ces mots révérencieux d'un vrai fan de jazz que nous allons nous quitter. Christian Bonnet, Claude Carrière, merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer le regretté Cabu. Est-ce que vous avez des recommandations, des rendez-vous à communiquer à nos auditeurs pour que vive le jazz libre et frondeur ? Claude Carrière.
Le 60e anniversaire de l'Académie du jazz. Alors, Académie et jazz, c'est oxymore, c'est ça. c'est deux mots qui ne vont pas très bien ensemble, mais bon, ça a existé, et ça existe toujours, et elle va joyeusement fêter ses 60 ans au Théâtre du Châtelet à Paris, un jour de février.
Le 8 février.
Lundi 8 février.
Donc, les 60 ans de l'Académie du jazz, le 8 février au Théâtre du Châtelet, à Paris. Je rappelle que vous pouvez retrouver dans le commerce le jazz de Cabu, dans la collection BD Jazz. Et je signale par ailleurs, soyons généreux, que la maison Gallimard Jeunesse a fait paraître deux ouvrages de bande dessinée consacrés à Ray Charles et Nina Simone, illustrés respectivement par Rémi Courgeon et Bruno Lianse pour les 6-10 ans. Enfin, je vous précise que notre invité la semaine prochaine sera Michel Hendrix, qui vient de sortir des Entrailles de l'Histoire, un enregistrement de 1998 inédit, qu'elle avait dédié à sa grande sœur Ella Fitzgerald, avec un livret signé Claude Carrière. Incroyable,
non,
si.
C'est pas vrai.
Parlez-nous en deux mots de ce disque, Claude.
Ouais, c'est un disque merveilleux parce que c'est un magnifique hommage à Ella Fitzgerald avec le grand pianiste d'Ella Fitzgerald, Tommy Flanagan, et son trio, plus des invités.
Tout ça, ça fait saliver, tout ça.
Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est magnifique que vous en parliez et qu'il faut parler de cette chanteuse. C'est la plus grande chanteuse de scat du monde et de l'univers.
La fille de John Hendrix. Quoi qu'il en soit, vous en saurez plus dans 8 jours, ici même. Merci, messieurs, de votre passion et très belle année 2016 à tous les deux.
Merci Joe pour votre accueil.
Mes salutations distinguées à Victor Hull qui a brillé en régie finale. Dans 30 secondes,